maison vous viendrez.
Oui, Mélanie
et Florent.
Oui. Bah, bienvenue au Troglo. Voici le jardin. Donc, je suis jamais venue dans une maison troglodyte. La particularité, c'est qu'on la voit pas de l'extérieur. En fait, là, dans le jardin, on voit juste.
Oui, effectivement.
Elle est creusée dans la falaise, enfin, dans le coteau, qui est fait d'une roche calcaire, le tuffeau. Donc, ça, c'est une ancienne carrière. Tout le tuffeau a été extrait pour devenir des bâtiments des environs. Il est resté les caves, qui ont ensuite servi à des vignerons, ensuite qui ont été reconvertis soit en lieu festif, soit en habitation. Celle-là, elle a eu tous ces usages-là, et c'est nous qui l'avons reconvertie en habitation ensuite.
Ma maison, tu viendras, quatrième épisode d'une série que nous vous proposons dans Prise de Terre sur les habitats insolites, parfois assez poétiques ou cocasses. Aujourd'hui, notre reporter Marion Paquet nous emmène près de Tours, à Poncé-sur-Cise plus précisément. Bonjour Marion.
Bonjour Adrien.
Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment on vit dans une grotte, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'on appelle un habitat troglodyte. C'est certainement la plus vieille maison du monde, hein, puisque dès la préhistoire, en fait, on a aménagé des souterrains, des grottes existantes avant de les creuser nous-mêmes. On en trouve un peu partout dans le monde, là où il y a des roches propices à ce type de construction. Et dans certains pays chauds, les troglodytes servent à se protéger de la chaleur. Ils sont emménagés sous terre. Mais celui que nous visitons aujourd'hui, lui, il a été creusé à l'horizontale, dans le rocher. Pas besoin de lampe frontale. Donc pour l'explorer, il suffit de passer le pas d'une grande porte d'entrée vitrée et on découvre une vaste cave de plein pied.
Allez, on se lance dans la visite.
C'est une grotte et puis surtout, on a une baie vitrée, une petite fenêtre sur le côté et sinon, tout se fait dans la longueur. Donc les arrivées de lumière sont assez restreintes et c'est pour ça que... C'est des habitats où il faut savoir jouer avec la lumière pour apporter un peu plus de chaleur et en faire un endroit plus vivable aussi.
Oui, parce que là, près de la baie vitrée, vous avez installé la cuisine.
Oui.
Et un espace salon.
Et le salon, ouais. Bah alors, en fait, comme on n'a qu'une seule pièce, en gros, on a été obligé de faire des choix un peu comme ça, où le fond, c'est essentiellement la salle d'eau, toilette et notre chambre. Les endroits dans lesquels on vit le plus, on les a mis plus sur l'avant et... Les endroits où on est moins, plus sur l'arrière.
C'est un peu un loft rustique.
Et là, on doit passer une petite marche.
C'est quoi ? C'est l'ancienne rigole, en fait, où le vin coulait. Donc voilà, on a décidé de garder ça parce que ce sont des éléments vraiment emblématiques.
C'est un peu l'histoire de l'habitation.
Voilà.
Donc là, la salle de bain.
Dans la salle de bain, toujours avec ce plancher en châtaignier, là, sur les lambourdes. C'est un matériau qui respire, et en troglo, c'est super important d'avoir des matériaux qui laissent passer la vapeur d'eau, parce que le tuffeau en est chargé, et si on fait pas ça, on a des problèmes de remontée capillaire, de moisissure, des accumulations d'humidité à certains endroits, qui rendent peu à peu l'habitation invivable. Enfin, au bout de 10 ans, ce serait irrécupérable, quoi. Faudrait tout refaire, tout casser, tout refaire.
Et donc oui, la salle de bain n'est pas vraiment séparée du reste de la grotte en fait.
Elle est séparée dans la mesure où il y a les petites cloisons, mais les cloisons sont vraiment partielles puisqu'on voit que ça s'arrête à 40-50 cm du plafond. Ça permet une respiration par le dessus.
Donc là on a passé le couloir. Là on est tout au fond et en fait c'est la partie la plus haute et la plus... Ça me fait un peu penser à une cathédrale, finalement.
Petite chapelle. Hein.
Oui, c'est ça. Ça fait un peu une chapelle, en fait, au fond de la grotte.
Quand on a acheté, on appelait ça les mines de la Moria. En référence au Seigneur des Anneaux. Mais on a, 4-5 mètres de hauteur sous plafond, peut-être. Mm. Avec les deux cuves de chaque côté. Donc, c'était les cuves de décantation. Une qui nous sert maintenant de placard, parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur usage. Et l'autre qui sert à rien. Juste à poser notre chambre par-dessus.
Et donc au-dessus, vous avez mis votre chambre en mezzanine.
Ouais.
Et après, le plafond de la mezzanine n'a pas l'air bien haut.
Alors, Je l'ai déjà pris plusieurs fois dans la tête. On s'habitue à la douleur.
Après, ça doit faire une impression assez de cocon, du coup.
Ah oui, 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 complètement. Et puis, on est le matin, on a la lumière qui arrive. Alors certes, c'est pas aussi franc qu'une fenêtre et tout, mais c'est quand même assez chouette. On a aussi la lumière de la cheminée qui arrive jusqu'à nous la nuit, l'hiver et tout. Enfin, c'est... Donc ouais, on est plutôt bien entouré et les premiers temps c'était assez impressionnant quand on dormait pas encore ici et qu'on pensait en fait à l'idée d'avoir ces 15 mètres de roche au-dessus de nos têtes et en fait on s'y fait parfaitement, il n'y a pas du tout d'angoisse comme on pourrait le penser au préalable.
Tu flippais un peu par rapport à ça au début
Bah c'est pas évident psychologiquement de se dire qu'on est vraiment sous terre et tout, mais non, on s'habitue assez vite. Au quotidien, nous, on n'a pas besoin de beaucoup chauffer. Donc, on voyait tout à l'heure dans notre salon, on a juste un poêle à bois qui suffit pour chauffer donc, les 90 mètres carrés comme tout est ouvert. Et à l'origine, donc, on avait installé un radiateur qu'on a fait tourner une fois, qui était juste ici, et qu'on a finalement enlevé peut-être 4-5 mois après avoir emménagé, parce qu'on s'est rendu compte que c'était...
Il servait jamais.
Ouais, il servait jamais. Mmh. Et donc, la roche emmagasine beaucoup de chaleur. Et aujourd'hui, on est à 19 degrés de température de base. Le matin, on se réveille, il fait toujours 19 degrés et c'est quand même très appréciable.
C'était avant-hier, on est parti se coucher, on a oublié de fermer la porte du devant. Donc, on a dormi avec la porte ouverte en mi-octobre. Hein. On s'est réveillé, il faisait toujours 19 degrés. Ça s'appelle l'inertie thermique. La capacité à emmagasiner de la chaleur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et une habitation trop glauque, c'est une inertie thermique monstrueuse. Ça emmagasine lentement, mais une fois que c'est chaud, pour faire refroidir l'habitation, c'est très très long et du coup une température confortable.
Nous, à l'origine, on ne voulait pas du tout habiter en trop glauque. Ça s'est fait un peu comme ça. Je trouve que ça nous convient aussi beaucoup mieux dans le sens où y a pas toute l'énergie de la construction. Donc on reprend quelque chose qui existe et voilà, enfin je trouve que remettre au goût du jour le patrimoine déjà existant, c'est écologiquement assez intéressant. Voilà, pour la gestion des ressources, c'est quand même quelque chose de plutôt bien.
Plutôt que prendre une parcelle nue et faire quelque chose dessus au détriment de, je sais pas, d'autres choses qui pourraient être faites. Quand je vois dans le coin, il y a des pavillons qui se construisent, même si c'est des pavillons avec les basse consommation, avec les super normes environnementales, machin. Ça reste une espèce de grande maison carrée qu'on met sur quelque chose qui pourrait servir à faire, je sais pas, un verger ou quelque chose comme ça. Et dans le même temps, il y a plein de vieilles fermes, de vieilles granges et tout qui tombent en ruine parce que personne les reprend. Je trouve ça un peu triste.
On ne vit plus dans un lieu, mais on vit avec un lieu. Donc on prend en compte tous les aspects qui doivent être pris en compte, donc l'aération, la luminosité, pas faire trop d'humidité. Enfin voilà, ça fait un peu partie de notre mode de vie.
C'est ce que tous les gens nous ont dit, vous allez voir, la pierre c'est vivant, il faut en prendre soin. Et on commence à dire ces mêmes choses que les gens nous ont dit, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de la pierre, ouais. Que c'est un organisme, et comme tout organisme, il doit être bien soigné.
Votre plafond est aussi habité, hein. Il y a un nid d'oiseaux.
Ouais, c'est un nid de troglodyte mignon, ça, justement. Et c'est un nid qui reste en place, les oiseaux, et puis c'est leurs descendants leur utilisent tous les ans. Ils font quoi? Ils font une, deux nichées par printemps-été.
On entend pas mal de petits bruits d'insectes aussi.
Ouais.
Oui, ça c'est parce que c'est l'automne, et que chaque automne, depuis qu'on a commencé les travaux, donc ça fait quoi, deux automnes déjà. On voit des grosses mouches, on appelle ça des mouches pourceaux dans le coin. Et elles font beaucoup de bruit, et elles vont se mettre dans des anfractuosités où elles bourdonnent, ça amplifie le son et c'est ça qu'on entend.
Et c'est ça qui est intéressant en fait dans la cave, quand je disais que c'était un habitat naturel, on le voit au quotidien parce qu'on n'est pas les seuls à l'habiter. Et au tout début aussi on avait beaucoup d'animaux, pas mal d'hirondelles qui rentraient. Ouais. On avait aussi des chauves-souris, c'est quelque chose qui est assez sympa avec les chevreuils qui passent et qui passent leur tête au-dessus de notre coteau, donc on les voit depuis
quand
notre
jardin.
Ouais.
Bon, merci beaucoup d'avoir fait visiter votre maison troglodyte.
Merci d'être passé, j'espère que ça convaincra certaines personnes de, de l'utilité d'un troglo. Et voilà.
Ça les amènera à vivre sous le rocher comme nous.
Ouais.
la maison troglodyte de Mélanie et Florent. Et si vous voulez suivre leurs aventures troglodytes, ils ont même créé une bande dessinée, c'est ça, sur leur vie en grotte, Marion ?
Oui, c'est une BD qui s'appelle Au fond du trou et c'est disponible sur leur site internet du même nom. Alors, ils y racontent leur joie hein, et leur déboire aussi, surtout l'humidité, la moisissure, la sensation de froid et c'est plein d'humour. Parce que s'il y a une bonne inertie thermique hein, dans la grotte, encore faut-il réguler son écosystème et ça, c'est une autre paire de manches.
Est-ce qu'ils ont beaucoup de voisins qui vivent comme eux en troglodyte ?
Oui, dans la rue de Mélanie et Florent, effectivement, il y a d'autres maisons grottes, mais la plupart maintenant sont des gîtes, des lieux qui proposent aux touristes une nuit insolite. Je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui vivent de façon permanente en troglodyte. Je sais qu'il y en a en Espagne aussi, mais pour beaucoup de propriétaires, c'est plus intéressant d'en faire des accueils touristiques.
Donc là, nous étions en France, près de Tours. Est-ce qu'il y a des maisons troglodytes en Suisse, Marion ?
Alors, je n'en ai pas trouvé lors de mes recherches, mis à part un troglodyte de luxe. Dans le canton des Grisons, sur la commune de Vals, un cabinet d'architecture a construit en 2009 un véritable hôtel-grotte de 160 mètres carrés. Il peut accueillir une dizaine de personnes.
Alors, si ça vous intéresse de découvrir cet hôtel troglodyte, rendez-vous sur le site internet de la Villa Vals. Donc, c'est www.villavals.ch. Merci Marion Paquet pour ce quatrième épisode de notre série Dans ma maison, tu viendras. Et pour le prochain épisode, le mois prochain, où est-ce que vous nous emmenez ?
Alors, nous irons visiter une maison en carton, Adrien.
On se réjouit de découvrir ça.
Prise de terre, Adrien Zerbini.